podcast.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur On Air, le podcast de l'Université Toulouse-Jean Jaurès. Je m'appelle Sophie Cholec, je suis journaliste et je vous propose, le temps d'un trajet en métro ou en bus, de tout comprendre sur un sujet de recherche. Et aujourd'hui, on va se plonger dans les albums jeunesse, mais pas n'importe lesquels, ceux qui manient les langues et les cultures, des albums qui font petit à petit leur place à l'école. Et c'est ce qu'étudie justement notre invité à travers le programme de recherche qu'elle coordonne depuis 2014 et qui s'intitule « Livres ensemble ». Bonjour Uriel Gobet-Mévélec.
Bonjour Sophie.
Alors vous êtes maîtresse de conférence en espagnol à l'INSPE Toulouse-Occitanie-Pyrénées, l'Institut National du Professorat et de l'Éducation, et vous êtes chercheuse au laboratoire Elela Creatis, Lettres, Langage et Arts de l'Université Toulouse-Jean Jaurès. Les albums dont on va parler et sur lesquels vous travaillez sont de plusieurs sortes. Il y a les multilingues, il y a les plurilingues, il y a les pluriculturels. Alors on va commencer par ceux sur lesquels vous avez démarré votre programme de recherche, Uriel Gobet-Mévélec. Les albums de jeunesse pluriculturels, c'est un terme que vous avez vous-même inventé parce que vous aviez repéré une tendance éditoriale. Alors du coup, en quoi ils consistent ces albums pluriculturels ?
Alors c'est bien ça, et en effet ce travail de terminologie, il est nécessaire quand on veut essayer de s'y retrouver dans cette offre éditoriale foisonnante. Et ce que j'ai pu remarquer de mon côté, c'est que si la littérature de jeunesse s'est intéressée depuis un bon moment à la question de l'autre, savoir comment vit l'autre là où il habite, dans quel contexte, dans quelles conditions de vie. Donc ça, c'est quelque chose qui est présent depuis très longtemps dans l'offre éditoriale d'albums pour enfants. Mais autour des années 2000, j'ai repéré une sorte de basculement. C'est-à-dire qu'on ne s'intéressait plus tant à l'autre dans la mesure où il vit ailleurs, avec d'autres conditions de vie, mais plutôt à l'autre dans la façon dont il vit à côté de moi, dont il coexiste avec moi. Donc en fait, on était moins intéressé par...
La notion de voyage peut-être, alors c'est plus ça.
Ouais. Exactement, ou alors en tout cas, c'est la position du lecteur qui change. On a moins un lecteur voyageur qu'un lecteur finalement hospitalier, qui est celui qu'on interroge sur la façon dont il coexiste avec les autres étant culturellement, linguistiquement différents de lui. Et donc, c'est cette espèce de dialogue interculturel mis en scène dans l'album que j'ai voulu essayer de mettre en valeur à travers ces termes-là, en montrant qu'on passait d'un paradigme plutôt multiculturel à pluriculturel. Les termes existent en dehors de moi, bien sûr, je ne les ai pas inventés, mais appliqués à l'album, j'ai essayé de mettre au jour cette nouvelle tendance d'albums pluriculturels, qui sont ceux qui problématisent les relations entre les cultures et aussi les relations entre les langues à l'intérieur même de l'album. Et c'est moins pour s'intéresser à l'autre de la façon dont il vit ailleurs que pour s'intéresser à la façon dont on vit ensemble.
Alors j'ai envie de vous demander un exemple évidemment d'album, vous en avez certainement à m'en citer.
Oui, je vais vous en citer, puis même je vais peut-être insister un peu sur le choix du préfixe. Pourquoi pluri et pas par exemple interculturel ? J'ai choisi le préfixe pluriculturel pour pouvoir montrer comment l'objet livre, l'album, est transformé par cette problématique interculturelle. L'objet même, dans sa forme même, se transforme au contact de cette thématique. Donc, pour vous prendre un exemple, on pourrait prendre un album qui s'appelle Les Migrants de Mariana Chiesa Matteos, qui a d'abord été publié en Italie en 2010, et qui est un album sans texte, qui s'ouvre dans les deux sens, qui est un album qu'on appelle un album tête-bêche, donc on peut le retourner et l'ouvrir dans les deux sens. Et cet album présente un chassé-croisé de migrants, alors les migrants étant représentés sous la forme de silhouettes noires mi-volatiles, mi-hommes, et puis qui donc rencontrent des difficultés dans leur parcours, des obstacles, la fatigue, des barbelés, une mer à traverser, et ils se retrouvent au milieu de cet album. Et ce qui est intéressant, c'est que ce que dit l'autrice au tout début de cet album, elle indique qu'elle a voulu d'une certaine façon à travers cet album mettre en scène l'ironie de l'histoire, le renversement de l'histoire qui fait que l'Europe, qui a longtemps été une terre d'émigration, aujourd'hui est devenue une terre d'immigration. Et voilà, cet album Tête Bêche était une façon de mettre en scène à travers l'objet livre lui-même ce renversement historique.
Et d'ailleurs les albums pluriculturels, ils ont des formats, des tailles complètement différentes les uns des autres, c'est très libre et très créatif.
C'est exactement ça, et ça c'est le propre de l'album en fait qui fait ça. C'est-à-dire que le format de l'album est un format qui se laisse traverser par les thématiques qu'il met en scène. Et quand on dit il se laisse traverser, c'est-à-dire à travers toutes ses composantes, son format, son papier, ses couleurs, sa couverture, etc. Donc oui, en effet, ça en fait un objet qui est très propice à l'investissement par cette thématique migrante.
Et est-ce que c'est la même chose pour les albums plurilingues, multilingues ? Est-ce que la forme de l'objet est aussi importante.
Oui, oui, vous en venez donc à un deuxième terme qui est important dans mon travail, qui est le terme d'album plurilingue. Et celui-là, il est à mettre en regard avec d'autres termes un peu connexes comme album multilingue ou album bilingue. Alors voilà, comment on fait la différence entre tous ces termes-là ? Moi, le terme de plurilingue m'a intéressée pour pouvoir montrer que certains de ces albums travaillent la porosité entre les langues et que finalement, ces langues, quand elles sont présentes dans l'album, elles ne font pas que coexister au sein d'une page, mais elles se font quelque chose les unes aux autres. Alors là aussi, si vous en êtes d'accord, je prends un exemple.
Je suis d'accord.
Il y a une maison d'édition qui m'intéresse beaucoup. C'est une maison d'édition qui s'appelle Le Port à Jauny, qui est à Marseille, et qui s'est spécialisée dans l'édition bilingue d'albums français-arabes. Et vous savez que ces deux langues-là ont des sens de lecture qui sont différents, de gauche à droite pour le français et de droite à gauche pour l'arabe. Donc comment on fait pour mettre ensemble dans un même ouvrage ces deux langues qui ont des sens de lecture qui sont différents ? Eh bien, cette contrainte est devenue une contrainte créative pour la maison d'édition puisque certains de ces albums s'ouvrent dans les deux sens et donc, par exemple, ça fonctionne avec des récits qui sont des récits circulaires. Je pense à un album comme Abracadabra de Salah Al-Mour qui est un récit qui commence comme il se termine et donc qui permet à une lectrice francophone comme moi, par exemple, moi je ne suis pas lectrice arabophone, mais je peux faire l'expérience de lecture de l'arabe dans le sens où je peux commencer mon livre parce qu'il me semble être la fin. Alors qu'en fait, c'est le début quand on est un lecteur arabophone. Ça permet de faire un pas vers l'autre et de faire se rencontrer les langues, les cultures dans cet ouvrage.
Et alors, ces albums, ils atterrissent à l'école, ils sont répandus, on va dire, ou bien utilisés de façon fréquente à l'école. Enfin, quel est leur usage, en fait, au sein de l'école ?
Alors, fréquente, sans doute pas à la hauteur de l'enthousiasme qui est le nôtre dans le groupe de travail Livre Ensemble. En tout cas, oui, nous, on s'intéresse un petit peu à leur utilisation. Donc, il ne s'agit pas seulement dans Livre Ensemble, de les identifier, de les analyser, mais aussi, en effet, ensuite, de voir comment on les utilise en classe avec des élèves. Et donc, pour ça, c'est vrai qu'on mobilise beaucoup des étudiants du Master MEF professeur des écoles de l'INSPE pour qu'ils testent des choses avec les élèves en classe. Pourquoi c'est intéressant d'avoir ces albums en classe ? Eh bien, depuis 2015, on va revenir un peu au texte officiel.
Allez.
Depuis 2015, l'institution a intégré dans ses programmes officiels la nécessité de faire avec les élèves de maternelle un éveil à la diversité linguistique. Donc cet éveil commence très tôt et cet éveil prend appui sur les langues et les cultures des élèves de la classe. Donc, c'est-à-dire qu'il s'agit de faire une place à l'école aux langues familiales. Pourquoi est-ce que ces éléments-là figurent dans les programmes aujourd'hui ? Eh bien parce qu'il a été montré par les chercheurs que de ne pas scinder langue de l'école, langue familiale, de pouvoir placer les élèves dans un espace de sécurisation et de sécurité linguistique, c'était bénéfique pour eux, c'était une condition nécessaire à leur progrès, à leurs apprentissages. Donc il faut essayer de lever ces barrières qui consisteraient à dire, parce que les représentations continuent à être répandu, qui consisterait à dire que les langues de la maison, ça reste à la maison et que la langue de l'école, ça n'est que le français et éventuellement les langues étrangères qu'on apprend. Non, toutes les langues qui font partie du répertoire de l'élève ont leur place à l'école.
Et vous me disiez d'ailleurs en préparant de ce podcast que ce n'est pas anecdotique puisqu'on a au moins un élève sur cinq qui est concerné par des langues, une langue maternelle, plusieurs langues à la maison.
Exactement. Au moins un élève sur cinq a en effet une langue à la maison qui est autre que le français. Et oui, c'est quand même beaucoup de nos élèves.
Ben oui.
Et ces langues-là, eh bien, pour les enseignants, pour la communauté éducative, elles ne sont pas toujours visibles. Parce que pour qu'elles soient visibles, il faut leur permettre d'être là, leur permettre d'exister et d'être entendues. Et donc ces albums dont on parle depuis tout à l'heure, que ce soit les albums pluriculturels, les albums plurilingues, ils sont des prétextes, des occasions, des opportunités, souvent à travers une expérience fictionnelle, de pouvoir faire émerger ces langues à l'école.
Je vous laisse continuer, vous avez quelque chose à ajouter.
Je voulais vous donner un exemple,
oui.
Voilà, avec un album plurilingue qui s'appelle « Bou et les trois ours ». Alors, c'est un album que j'aime beaucoup, qui est une réécriture contemporaine du conte patrimonial de « Boucle d'or et les trois ours », qui a été écrit par Elsa Valentin et illustré par Ilia Green. Et cette réécriture contemporaine, c'est une réécriture très, très ludique et plurilingue. Donc, alors, elle commence comme ça. « L'était une fois une petite boue qui livait dans la foresse avec sa maille et son paille. » Un jour, elle partit caminer dans la forêt pour groupir des flores. « Petite boue, ne t'élonge pas troppe, » lui dirent sa maille et son paille. « D'accord, d'accord, » répondit Boue. Et vous voyez que, dans ce texte, dont la langue d'accueil, dont la langue principale est le français, viennent s'insérer d'autres langues, mais aussi d'autres registres de langues. Il y a un jeu sur les deux.
J'ai reconnu l'espagnol, mais il n'y a pas que.
Et pas que. Vous avez peut-être reconnu un peu une influence de l'anglais, peut-être aussi du portugais. Il y a du créole aussi à d'autres endroits. Et en fait, ça n'handicape pas la compréhension globale de cette histoire, même pour un jeune lecteur qui n'aurait pas ces langues-là dans son répertoire, puisque la langue majoritaire reste le français, mais ça donne des occasions aux élèves de pouvoir dire « Eh bien oui, le mot paille, par exemple, moi je sais ce que ça veut dire. Ça veut dire papa parce que à la maison, en portugais, on dit paille. » Voyez ? Donc ce sont ces occasions-là qui permettent de faire émerger les langues de la famille et de leur donner toute leur place à l'école.
Une reconnaissance pour les langues familiales et pour les enseignants eux-mêmes, les professeurs, c'est un outil, j'imagine, qui est très utile parce qu'évidemment, ils ne sont pas polyglottes, les professeurs.
C'est un outil indéniable parce que, en fait, les enfants qui sont des enfants bilingues ou plurilingues, quelles que soient les langues qui figurent dans leur répertoire, et j'insiste là-dessus parce que les représentations sont tenaces sur les langues, on considère souvent que tous les bilinguismes ne sont pas égaux, ça n'est pas vrai. La recherche a bien démontré que toutes les langues se valent de ce point de vue-là. Donc, un enfant qui a plusieurs langues dans son répertoire va développer beaucoup plus facilement ce qu'on appelle des compétences métalinguistiques, c'est-à-dire la capacité à prendre du recul par rapport à la langue et donc à mieux comprendre le fonctionnement. Par exemple, à se demander si, ah oui, dans la langue que je parle à la maison, le pluriel se forme de telle façon, et là, à l'école, dans ma langue de scolarisation, je suis en train d'apprendre que ça se forme de telle autre façon. Et ces mécanismes-là, de passage d'une langue à l'autre, favorisent la prise de distance, la prise de recul par rapport à la langue et permettent d'asseoir davantage les apprentissages des élèves.
Et du coup, cette tendance, elle est évidemment à la fois impulsée, mais elle est aussi suivie par le monde de l'édition, j'ai l'impression, dans ce que vous me dites.
Oui, alors, elle est suivie par le monde de l'édition, mais je dirais de façon différente, selon qu'on parle des albums pluriculturels, qui sont en effet très présents, et dans lesquels il y a une audace éditoriale qui est assez intéressante aujourd'hui, vraiment, et sans doute de façon moindre au niveau des albums plurilingues. Ce qu'on remarque, c'est une tendance importante à l'album multilingue, c'est-à-dire où la diversité des langues est présente, mais où, d'une certaine façon, on a un peu une tentation didactique de l'album parce que sa grande page blanche avec sa capacité à mettre en place dans la page de façon très libre le texte et l'image, à utiliser des codes couleurs, tout ça, ça favorise la coprésence des langues, mais si vous voulez, de façon bien rangée, bien étiquetée. Alors que, en réalité, le plurilinguisme des enfants, des jeunes lecteurs, c'est quelque chose qui est beaucoup moins bien rangé que ça. En fait, c'est chez les élèves, chez les enfants, des langues qui sont mélangées dans leur répertoire et puis qu'ils vont aller chercher, selon les situations, parfois en mélangeant dans la même phrase, plusieurs langues, ce qu'on appelle le translanguaging. Or, une offre éditoriale en littérature de jeunesse à la hauteur de ces compétences-là des enfants, c'est quand même nettement moins présent. Alors, vous en avez entendu un petit aperçu avec Bou et les trois ours, mais disons que c'est plus rare comme tendance que l'album multilingue.
Et il y a une demande aussi du côté du monde professoral, des bibliothécaires, de toutes ces personnes en fait, qui travaillent avec les enfants.
Oui, tout à fait. Et vous avez bien raison d'élargir au-delà du monde enseignant, parce qu'en effet, que ce soit bibliothèque, travailleurs sociaux, il y a une vraie demande de pouvoir trouver des supports littéraires pour les enfants adaptés justement à leur caractère biplurilingue. Voilà. Et donc en effet, ce sont souvent avec les moyens du bord, des solutions un peu artisanales qu'on constitue des fonds d'albums multilingues ou plurilingues. Et en effet, il y a une vraie demande éditoriale.
Vous êtes passionnante à écouter, Ariel Gobet-Mevelec, et on comprend, mais vraiment très bien, l'intitulé de votre programme de recherche, Livre ensemble. Il y a une tradition dans On Air, c'est de demander à l'invité une référence à citer par rapport au thème qu'on vient d'évoquer. Alors ça peut être un livre, bien évidemment, mais ça peut être une conférence, ça peut être un film, ce que vous voulez.
Mais écoutez, cette suggestion me donne l'occasion de vous inviter au colloque PASS, pratique artistique et approche sensible en didactique des langues cultures, qui se tiendra à l'Université Toulouse-Jean Jaurès du 14 au 16 mai 2025, qui est en fait un colloque organisé par l'ACEDLE, qui est une association internationale de chercheurs en didactique des langues, que nous avons le plaisir d'accueillir avec ma collègue Chantal Don-Martin et mon autre collègue de Besançon, Nathalie Tamin, à Toulouse cette année. Et donc dans ce colloque, qui sera un colloque assez conséquent, une jolie place sera faite à la littérature de jeunesse multi et plurilingue, avec la présence d'éditeurs, notamment dans le cadre d'une table ronde, et de chercheurs dont c'est la spécialité.
Et c'est ouvert à tout le monde.
C'est ouvert à tout le monde, et ça sera à l'INSPE le mercredi, sur le site de Saint-Agne, et à la Maison de la Recherche de l'Université Jean Jaurès, le jeudi 15 et le vendredi 16.
Un très grand merci, Uriel Gobet-Mévelec, d'avoir accepté notre invitation.
Merci à vous.
On Air est une production de l'Université Toulouse Jean Jaurès, portée par le Centre de promotion de la recherche scientifique, le service communication et le pôle production Le Vidéographe de la Maison de l'Image et du Numérique de l'UT2J. Réalisation Cédric Perronnet du pôle production Le Vidéographe. On Air est diffusé sur Miroir, le web média de l'Université Toulouse Jean Jaurès, et est également accessible sur le site www.univ-tlse2.fr. Vous pouvez enfin retrouver On Air sur les différents comptes de l'UT2J et sur les plateformes numériques. On Air.